Bonjour, c'est Olivier Prêtre. Je suis ravi de vous retrouver sur IDFM Radio pour votre émission Mission Planète Terre. Donc je vous rappelle, c'est les deuxième et quatrième mercredis du mois, donc pour votre émission Mission Planète Terre. J'en profite pour vous adresser, Francky qui m'accompagne à la technique, et moi-même, tous nos voeux de très bonne et très heureuse année 2025. Alors aujourd'hui, pour cette première émission de l'année 2025, on reçoit un réalisateur, photographe, Pierre Dugofson, qui revient de Genève. Genève, il y avait la huitième édition du Festival international du film sur les glaciers. Et Pierre Dugofson, vous avez remporté la Palme d'Or, le premier prix du festival, avec un film qui date de décembre 2023, Eddie's Ice, en Antarctique, avec une glaciologue, puisque c'est Eddie Sevestre. Bonjour Pierre Dugofson.
Bonjour.
Alors, racontez-nous un peu votre histoire avec Eddie Sevestre. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment est né ce film?
Ce film, il est né très précisément au Festival Atmosphère à Courbevoie, en 2021, où moi j'exposais des photos, et puis Eddie a fait une conférence très courte, je pense que c'était une dizaine de minutes, dans une très grande salle. Et là, j'ai tout découvert d'un coup. J'ai découvert à la fois Eddie et ce qu'elle faisait. Je connaissais rien. Et j'étais assez stupéfait, non seulement par son charisme, mais aussi par la qualité d'écoute des gens. C'est-à-dire qu'il y avait un silence incroyable dans la salle. Et il se trouve qu'ensuite, moi, je faisais des photos dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais je fais des portraits des portraits de militants climat et biodiversité au sens large. Et
donc vous étiez déjà intéressé par tout ce qui était climat, réchauffement climatique.
Ah, j'étais très engagé, moi. J'ai un passé de militant. Et donc j'ai proposé à Eddie de venir poser pour ces photos-là. Il se trouve que j'avais reproduit mon studio là-bas, à Courbevoie. Et quand elle est venue, et on a parlé que du Svalbard, de l'Arctique, des glaciers. Et puis elle m'a dit, il faut que tu viennes voir par toi-même. Et elle était marraine du festival, moi j'exposais, du coup on se voyait tous les jours. Et le lendemain, je lui ai dit, ok, je peux venir, mais si je viens, c'est avec une caméra. Elle m'a dit, voilà, viens avec une caméra, parce que je suis pas touriste, moi. Et puis ça a donné ce film. Après, on a pris notre temps pour définir les choses, et puis on l'a fait.
Mais vous avez dû chercher des financements. Comment ça s'est passé au départ?
Au départ, oui, j'ai cherché des financements, mais j'ai surtout cherché à être sûr du fait qu'on allait faire réellement un film. Je peux pas y aller complètement au hasard non plus. Donc j'ai passé d'abord beaucoup de temps à m'éduquer moi sur les problèmes des glaciers, sur la question du réchauffement évidemment, mais des implications que ça peut avoir sur les océans, sur la faune, enfin sur toutes les conséquences à l'échelle mondiale de la fonte des glaciers. Et puis côté financement, j'ai cherché des chaînes. Ce qui est intéressant, c'est que j'étais obsédé par le fait de faire court. Je voulais faire un film court en me disant un climato-sceptique n'ira jamais se poser devant un film sur les glaciers qui dure une heure. Et je me suis dit, au moins, si le film est court, sur un malentendu, il pourrait se laisser faire, il pourrait se laisser être un peu curieux. Et donc, je cherchais une chaîne qui accepterait un projet court, et j'en ai pas trouvé, jusqu'à ce que je tombe sur TV5 Monde, où là, on m'a proposé de faire une mini-série de 4 fois 13 minutes. Donc, pour moi, ça devenait 4 fois le programme court, c'était très très bien. Je me suis engouffré là, je suis parti avec ça, en sachant que j'allais faire en gros 4 films au lieu d'un. Et moi j'étais ravi, Heidi aussi, donc j'ai rejoint Heidi en Arctique, en avril 22, et puis on a attaqué.
Alors votre premier souvenir, en arrivant donc au Svalbard, c'est quoi? Quelles images vous avez vues dans votre tête?
Oh là, c'est très très impressionnant. En fait, rien que l'arrivée à l'aéroport de Longyearbyen, qui est j'allais dire l'unique ville, mais c'est pas vrai, mais en tout cas la principale ville du Svalbard, où il y a ce petit aéroport, quand on va chercher, quand on sort, quand on va chercher ses bagages, il y a une énorme baie vitrée qui donne sur le fjord, qui est directement, et donc on a une vue immédiate, dès qu'on arrive, on a une vue sur ce que sont les montagnes là-bas, sur ce qu'est un fjord là-bas, à quoi ressemble la mer. Et comme j'étais en avril, tout était enneigé, c'était absolument extraordinaire, mais j'en avais les larmes aux yeux. C'était totalement bouleversant, mais je m'en suis toujours pas remis, en fait.
Et la glaciologue, donc Heidi Sevestre, elle vit une partie de l'année aux Albarnes.
Elle y va autant qu'elle peut, en fait. Il se trouve qu'elle a énormément d'activités, mais elle a aussi des responsabilités au Conseil de l'Arctique. Donc elle donne énormément de conférences, elle intervient dans beaucoup de choses, que ce soit les COP, etc. Donc elle est très très sollicitée, de plus en plus. Et donc elle n'y est pas autant qu'elle le voudrait, à mon avis, mais elle y est autant qu'elle peut, ouais.
Combien de temps êtes-vous resté sur place?
Alors j'y suis allé deux fois pour ce film. Une première fois en avril, j'y suis resté deux semaines, et j'y suis retourné en octobre, de nouveau pour deux semaines. Et l'idée était la première fois, c'était pour être là au moment où on passe au jour permanent, et ensuite en octobre, au moment où on passe à la nuit polaire, et donc de vivre les deux transitions. Voilà, j'ai pas vécu le froid extrême de l'hiver ni le désenneigement de l'été. J'ai été vraiment aux deux moments transitionnels, quoi.
Ah, il y a un moment dans ce film qui est très émouvant, c'est le moment de la lettre d'Heidi Sevestre,
oui,
au glacier.
Oui.
Est-ce que le texte, il a été préparé par avance, ou est-ce que ça a été improvisé?
Il s'est totalement improvisé. Ce qui est, en fait, j'avais une idée très très précise de ce que je voulais comme film. Et donc on a travaillé à partir d'images exclusivement de drones, d'abord longuement sur la banquise et ensuite sur les glaciers. Et donc les images, je les avais faites en avril avec Heidi. Et il y a une partie des images qui venait aussi que Heidi avait déjà faites avant sur certains glaciers. Donc on a mélangé tout ça et on a fait ensemble les images sur la banquise. Et quand j'y suis retourné en octobre, j'avais monté le film tel que vous le connaissez maintenant. Et j'étais venu avec un iPad, je lui ai collé le film sur un iPad, je lui ai mis un casque avec la musique qui était déjà préparée par la compositrice du film, qui s'appelle Villemin. Et donc Heidi avait été en condition, elle avait la musique dans les oreilles, elle avait le film comme on le connaît nous, et je lui ai dit: maintenant, tu nous dis ce que tu veux, ça va durer 13 minutes, et voilà, raconte. Enfin, tu as carte blanche, en fait. Donc on en a un peu parlé, mais elle a pas eu besoin d'en parler longtemps. Elle s'est jetée dedans et elle a improvisé cette lettre. Ça vient d'elle, hein, le fait que ce soit une lettre, le fait de s'adresser au glacier comme ça, ça vient vraiment de Heidi. Et on l'a fait. Je crois qu'on l'a fait une première fois, et quand on est arrivé au bout, elle m'a dit: mais j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. J'ai dit: c'est pas grave, on recommence. Donc on a fait une deuxième passe. Et derrière, au montage, moi, j'ai pris les deux prises, et j'en ai fait une seule, en enlevant quelques redites ou des choses comme ça. Et puis voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment une improvisation de Heidi. Oui, c'est 100% Heidi.
Les conditions météorologiques sur place, c'était difficile. Comment vous vous êtes déplacé?
C'était moyennement difficile, parce que comme on était dans une période de transition, c'est pas du tout, c'était pas un froid extrême. Je crois que le plus froid que j'ai connu en avril, ça devait être moins 14, ce qui là-bas est vraiment pas grand-chose. C'est très très supportable, l'air est très sec, on n'a pas du tout le ressenti du froid qu'on peut avoir ici en France. Donc c'était pas grand-chose, et donc on se promenait essentiellement en scooter des neiges.
Et pourquoi pas avec des chiens de traîneau?
Mais c'est compliqué, les chiens de traîneau, et puis c'est très long. Nous, quand on part pour aller chercher un glacier, on part très loin. Je crois qu'il a jamais été question de partir en chien de traîneau. Et on a toujours tout fait en scooter, c'est-à-dire qu'en une fois, on peut partir très loin, travailler.
Très loin, c'est combien de kilomètres?
On a carrément traversé l'archipel, c'est-à-dire que je sais pas ce que ça représente en kilomètres, mais...
Vous dormiez où le soir alors?
On revenait.
Ah, okay.
On revenait à Longyearbyen le soir, donc on n'a pas campé sur les glaciers, on n'a pas eu besoin. Et voilà, donc c'était essentiellement en scooter.
Et le temps vous a toujours permis, en 15 jours, du coup, c'était 15 jours la première fois,
ouais,
d'avoir de belles images, une belle luminosité.
Oui, on a pu faire des très belles choses. Il m'en a manqué beaucoup, et puis c'est pour ça que je suis revenu en octobre. J'avais vraiment besoin il fallait au moins ça. Surtout que c'est un cas très particulier, mais c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Je suis parti sans scénario. J'avais rien. Tout ce que j'avais, c'était le sujet. J'étais sûr de mon sujet, sûr que j'avais quatre parties différentes à faire. Et je savais que j'avais un personnage exceptionnel, qui était donc Heidi Sevestre. Et je savais que j'aurais des décors exceptionnels. Mais je ne savais pas encore comment j'allais nourrir le film.
Pierre Dugofson, je vous propose de faire une courte pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après.
When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live.
You know you did, you know you did, you know you did.
But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
Live and let die.
Live and let die.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
On se retrouve sur IDFM Radio avec Pierre Dugofson, réalisateur, photographe, qui vient de remporter la Palme d'Or du Festival International du film sur les glaciers de Genève. Pierre Dugofson, on parlait donc d'Eddie's Ice en Antarctique avec une glaciologue. Est-ce que ce film, on peut le voir où ce film aujourd'hui?
Alors, il se trouve qu'il y a eu, comme il est coproduit par la chaîne parlementaire, il est visible en replay simplement sur YouTube. Il suffit de taper le nom, c'est Heidi comme le conte, Heidi, et puis Heidi apostrophe S, Ice, I-C-E. Voilà, la glace d'Heidi, ça pourrait se traduire. Et puis, donc, il y a aussi sur la chaîne TV5 Monde, sous la forme d'une mini-série. J'ai les deux formats existants. Et voilà, vous êtes libre d'aller sur l'un ou sur l'autre, sachant que pour les pour ceux qui sont hors de France, il vaut mieux aller sur TV5 Monde, il y a des sous-titres.
Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes devenu un peu plus sensible que vous l'étiez déjà auparavant, un peu plus militant, en faveur du réchauffement climatique, enfin de la lutte contre le réchauffement climatique?
Alors, je suis pas plus militant ni plus sensible, je l'étais déjà. Par contre, ça a été très important parce que j'étais militant au sens où je faisais j'étais habitué des manifs, j'étais habitué de plein de choses, de l'activisme un peu basique. Et en fait, quand j'ai rencontré Heidi, je me suis vraiment posé comme cadre de me mettre à son service, au service de la parole d'une scientifique. Pour moi, c'était très important, en gros, de trouver un espace d'expression pour une scientifique et de tout faire pour mettre ça en valeur. Donc je me suis un peu effacé au sens militant, et je suis devenu presque un peu plus diplomate entre guillemets. Mais c'était important pour moi, c'est-à-dire que c'était un changement dans la manière de militer. Et pour moi, c'est toujours une forme de militantisme, mais militantisme beaucoup plus doux et qui correspond beaucoup plus à Heidi en fait. Je me suis vraiment mis au service de son expression. Et j'en suis ravi parce qu'on a visiblement, en tout cas les retours qu'on a sont assez incroyables. On a reçu énormément de messages. Moi, j'ai jamais reçu autant de messages pour quoi que ce soit. C'était assez délirant. Et même le soir où, à Genève, là, quand on a montré le film, il y a eu des réactions assez impressionnantes d'émotion. Enfin, moi, ça me touche beaucoup, tout ça. Donc, je pense qu'on a réussi quelque chose de ce côté-là. Et voilà. Mais oui, ça m'a modifié.
Mais c'est intéressant aussi le fait, c'est la première fois dans le festival que des réalisateurs étaient invités. Et je pense que le contact entre le public et les réalisateurs, les échanges après la projection des films, c'est important. Enfin, ça vous marque aussi, sûrement. C'est toujours les mêmes questions qu'on vous pose
ou... Non, jamais.
Non, jamais?
Jamais, jamais.
D'accord.
J'ai jamais eu deux fois la même expérience.
Et est-ce que vous avez, donc, j'imagine que vous êtes resté proche d'Eddy Sylvestre. Est-ce que vous avez d'autres projets avec Heidi Sylvestre?
Ah ben, je suis en ce moment en train de terminer un deuxième film avec elle parce que, après avoir tourné le premier, Heidi est retournée là-bas l'été et m'a montré de là-bas des images terribles d'un petit glacier qui est derrière Longyearbyen. Et qui était un état de fonte assez impressionnant, en tout cas qui nous montrait une accélération de la fonte qui, d'après elle en tout cas, était beaucoup plus important que toutes les prévisions qu'on en avait. Enfin, c'est pas des prévisions, des projections. Et donc on s'est dit que ça méritait un nouveau film, et c'est celui qu'on est en train de faire en ce moment, qui s'appelle « Glacier d'Arctique, état des lieux ». Que je suis très content parce qu'on va pouvoir le présenter en mars, le 19 mars, on va pouvoir le présenter dans un ciné-club que j'aime beaucoup, qui s'appelle Climax, qui est au Grand Action à Paris, et c'est un ciné-club qui a été créé par Cédric Villani.
Cédric Villani, l'homme à l'araignée?
Oui, absolument. Et voilà, donc tout ça me fait extrêmement plaisir, et voilà, donc je suis en plein dedans. Et celui-là, de nouveau, je suis retourné au Svalbard pour le faire, donc et il y a Heidi plus quelques autres glaciologues.
Et donc je crois que ça sera deux jours avant la journée mondiale des glaciers, hein, déclarée par l'ONU, c'est ça?
Exactement, cette journée mondiale aura lieu le 21 mars, et toute l'année 2025 va être l'année de préservation des glaciers, et le 21 mars, c'est l'année... la journée mondiale des glaciers, on va dire. Et nous, c'est donc deux jours avant, je suis absolument ravi.
C'est vrai que la situation, elle est extrêmement grave pour les glaciers. Alors, vous avez dû vous en rendre compte, vous, en allant au Svalbard.
Oui.
Mais il y a Philippe Descoix, qui est anthropologue, qui a dit il y a quelque temps, donc à l'échelle de l'histoire humaine, il est minuit moins quelques secondes.
Oui.
Et lorsque minuit sonnera, dans quelques décennies, nous entrerons dans un monde inconnu.
Oui.
Et on dit aussi que tous les glaciers des Alpes devraient disparaître d'ici 2100. Donc c'est dans très peu de temps, c'est pour les générations futures.
Oui.
Est-ce que vous voulez vous intéresser aux glaciers des Alpes un jour ou ça...
Ah ben je pourrais. Heureusement...
Avant qu'ils disparaissent, avant 2100.
Heureusement, il y a déjà beaucoup de gens qui s'y intéressent. C'est pas comme si on m'attendait. Donc c'est pas comme si on n'était pas documenté. Il y a vraiment des gens du coin d'ailleurs, qui sont glaciologues ou pas que d'ailleurs, qui documentent, donc c'est plutôt bien. Mais moi-même, oui, je pourrais si on me le proposait.
Je crois, Pierre Dugofson, donc en vous présentant tout à l'heure, je disais que vous étiez réalisateur et photographe.
Oui.
Vous avez aussi un projet de photos que vous avez réalisé, alors avec des gens connus, des gens moins connus aussi.
C'est une série de portraits de militants climat au sens très large, que je disais, quand je dis climat, c'est un peu n'importe quoi, c'est climat, biodiversité, c'est assez large, mais qui est né, en gros, juste après le confinement, en 2020, et donc je fais des portraits en noir et blanc, qui, la série s'appelle Activism Works, et ça, on la retrouve essentiellement et uniquement, j'allais dire, sur Instagram, à l'adresse Pierre Dugofson, qui est mon nom, Pierre Dugofson-AW, comme Activism Works. Et donc très régulièrement, soit c'est moi qui le propose à des gens, soit aujourd'hui c'est plutôt des gens qui me contactent par Instagram pour venir poser. C'est vrai que j'aime beaucoup cette série parce que au-delà même des photos, moi elle me permet de rencontrer des gens j'ai rencontré des gens de presque toutes les associations qui existent, je crois. Enfin, pas toutes, mais beaucoup en tout cas, et je me retrouve un peu dans une situation une position de journaliste. Donc, j'en apprends énormément aussi sur les différents mouvements, quoi. Et c'est assez formidable pour moi. Et j'ai rencontré plein de gens formidables en faisant ça.
Vous avez réalisé combien de portraits jusqu'à maintenant ?
J'ai fait le 145e hier.
D'accord. Donc vous allez en trouver deux. Alors, il y a des gens célèbres.
Il y a quelques portraits. Oui, des gens,
des noms.
Des noms. Récemment, il y a eu Swann Arlo ou Claire Nouvian. Un peu avant, il y a eu Guillaume Meurice, par exemple. Bully Lanner. Des gens comme ça. Mais ce sont tous, enfin, vous l'entendez, ce sont réellement des militants. C'est pas une galerie mondaine du tout. Je tenais à mettre en valeur les militants de base, quoi, des gens totalement inconnus. Et pour moi, dès le début du projet, c'était très très important. En fait, je suis un peu allergique à l'élitisme, donc j'aime bien qu'il y ait des gens connus parce que je sais que ce sont réellement des gens très engagés. Mais sinon, je leur cours pas après.
Très bien, je crois que vous avez d'autres projets alors qui sont dans d'autres domaines, non, de films. Vous n'avez pas un documentaire, un long métrage sur le piège?
Il y a un documentaire qui va sortir, ça c'est sûr, qui s'appelle 340 Vie d'un piano, qui va être visible en VOD, SVOD, très bientôt, qui m'a pris beaucoup de temps, où on a filmé la restauration d'un piano à la Philharmonie de Paris. Ça m'a pris beaucoup de temps et j'en suis très content. Et sinon, là, il se trouve qu'on est le 8 janvier, et le 10 janvier, il y a une avant-première, très en avance, parce que c'est un film qui va sortir en mai, mais on se fait une petite avant-première avant, à Paris, d'un film qui s'appelle Les femmes et les enfants d'abord, et en fait, on a réuni mes dix derniers courts-métrages de fiction, et c'est un distributeur que j'adore, qui s'appelle Malavida, qui le sort, en fait, et on s'est entendu sur l'ordre, parce qu'on n'a pas respecté l'ordre chronologique, mais on a fait un ordre qui rend l'ensemble cohérent. Et donc, ils sortent ça en salle, et je trouve ça absolument merveilleux. Ça donne une nouvelle carrière à ces films. La plupart, pas tous, mais presque, je crois, ont eu déjà énormément de prix. Donc, c'est une deuxième carrière pour eux, et je trouve ça génial. Voilà.
Et vous-même, vous avez reçu déjà beaucoup de prix
Avec les cours, là, c'est... Oui, beaucoup, oui. Je l'ai... compte plus.
Et est-ce que ça permet donc d'avoir davantage de contacts?
Les prix, à part faire beaucoup de bien pendant 24 heures au moment où on les reçoit, ça mène pas particulièrement de contacts. Non, disons que ça crédibilise. Ça, c'est surtout ça. C'est-à-dire, ça fait très plaisir, mais ça crédibilise sur. Enfin, c'est évident ce que je dis là, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais ça rend l'ensemble plus solide. Et qu'un film qui a beaucoup de prix, on se doute qu'il plaît, et en général, disons que ça permet des ventes télé un peu plus facilement, des choses comme ça.
Ce qui est intéressant, c'est que le Festival du film sur les glaciers de Genève, en fait, c'est pas un jury de professionnels, hein, c'est une votation du public.
Ce qui est le top.
Ouais. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a voulu ça à Genève, en fait, que ce soit le public qui vote. Et donc, bah, à chaque fois, ils voient tous les films, ils mettent une note. Et
oui, oui. Des comptes, mais c'est les plus, c'est les prix les plus importants, les prix du public. Mmh. Toujours. C'est, mais pour tout le monde. C'est...
Donc l'année 2025 commence bien pour vous.
Ben en fait, elle va être assez riche. Je ne sais même pas ce que je vais pouvoir tourner d'autre parce que je risque de passer beaucoup de temps entre Glacier d'Arctique, État des lieux, le mont et la fiction, les femmes et les enfants d'abord. Rien qu'avec ces deux choses-là, surtout que Heidi's Eyes continue d'être très demandé à droite et à gauche pour des projections et avec des conférences. En fait, je risque d'être très très occupé, oui. Mais tant mieux.
Tant mieux. Donc vous allez repartir au Svalbard, là ?
Pas tout de suite. Là, pour l'instant, il faut que je finisse ce glacier d'Arctique.
Et le Père Noël, il est où, là ? Il était... Vous l'avez rencontré, là-bas, quand...
Je l'ai pas rencontré. Il dort en Finlande.
Ah, d'accord.
Okay. C'est loin du Svalbard. C'est quand même l'Arctique, mais ça reste loin.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup Pierre Dugofson.
Bah, merci.
Est-ce que vous avez d'autres rendez-vous ? Rappelez-nous le prochain rendez-vous, donc dans deux jours.
Oh, dans deux jours, mais ça concerne que Paris. Ça, c'est les femmes et les enfants d'abord, qui est une petite avant-première au Saint-André-des-Arts à Paris. Et puis après, il y a le 19 mars au Grand Action avec...
C'est entrée libre ?
Entrée libre, je ne sais pas.
Bon,
ça, j'en sais rien. Climax, c'est donc le 19 mars avec... Glacier d'Arctique, État des lieux, ça c'est très important pour moi. Et puis je sais pas encore sur quelle chaîne il va passer exactement, mais on verra.
Alors Glacier d'Arctique, État des lieux, vous pourriez peut-être faire en sorte qu'il soit un nouveau candidat à la prochaine édition
du festival. Ah mais je vais vous le
donner,
c'est sûr.
De Genève.
Ah. C'est sûr, surtout qu'il est très important parce que c'est vraiment, je pense, la première fois qu'on s'intéresse aux glaciers dans leur pire état, au moment de la fin de la période de fonte, et on va vraiment montrer ce que c'est qu'un glacier abîmé. Et il est important qu'on commence à documenter là-dessus. Et moi, jusque-là, j'avais pas vu ça. Donc, je suis très heureux qu'on l'ait pris de cette manière.
Merci beaucoup, Pierre Dugofson, d'être venu dans les studios d'IDFM Radio aujourd'hui. À nouveau, très belle année, très bonne année 2025 à vous tous, de la part de Francky qui m'accompagne, et moi-même.
Et moi-même.
Et vous-même. À dans 15 jours.